Année, je crois 1969 ou à quelques années près, un colonel de l'armée française convoque son adjudant de semaine le 13 juillet et lui dit: adjudant, demain 14 juillet, ça sera le. Attendez. Le 870e anniversaire de la prise de Jérusalem par les croisés. En conséquence, il y aura une prise d'armes, un défilé. Bon. Donc, on l'a vu ce matin, après la mort de Mohammed, l'islam connaît une expansion rapide par la violence. Et on a vu comment la cavalerie franque de Charles Martel arrête la progression à Poitiers. Cette expansion, je l'ai dit aussi, elle doit être jugée comme un châtiment de Dieu. À quoi est-elle due? Au plan naturel. Eh bien, à mon avis, cette expansion est le produit de deux facteurs, je l'ai évoqué ce matin. L'un comporte les qualités humaines, résistance, ténacité des troupes arabes, la mobilité que leur donnent le désert et le chameau, l'initiative auxquelles ils peuvent prétendre, prendre au moment, sur le lieu et le moment de l'attaque. La brutalité de la mise en place de leur pouvoir et la sollicitation violente à partager leur foi islamique. Meurtre, esclavage ou humiliation, suivant le cas. De plus, l'islam, par son fatalisme, est cause de décadence. Aussi, selon la remarque faite par un auteur musulman, ce sont les dernières populations conquises qui vont faire progresser l'islam. L'islam a été conquis par des berbères récemment convertis, les Almohades, les Almoravides. Les Turcs, on va le voir, vont remplacer, convertis aussi, vont remplacer les Arabes décadents et vont partir à l'attaque de l'empereur de Byzance, l'empereur romain oriental. Alors, donc l'islam avance comme une espèce de marée qui semble tout envahir, et en l'an 1000, ils en sont arrivés à s'installer à Nicée suite à des bagarres. Nicée, sur la carte, c'est au large, enfin, il y avait donc la Turquie, vous avez Constantinople qui est là, de côté de la mer, du passage de la mer Noire, et puis là, Nicée, un peu à l'intérieur des terres, mais pratiquement sur l'axe de Constantinople. En 975, un empereur de Byzance avait provoqué un espoir. Avec ses légions romaines, il avait poussé jusqu'à Damas, le lac des Tibériades, le mont Tabor, Nazareth, mais il n'a pu aller jusqu'à Jérusalem parce que les ports de ce qu'on appelle maintenant la Syrie et le Liban, étant encore occupés par des musulmans, ils pouvaient être pris à revers par des troupes qui débarquaient là-bas. Et il est obligé de revenir. 30 ans plus tard, le calife du Caire avait persécuté les chrétiens au Saint-Sépulcre, montrant, je dirais, l'importance d'une présence de force si on veut être respecté des musulmans. Cette situation déjà mauvaise empire avec l'apparition des Turcs. Arabes et Persans avaient donc un islam ancien, donc décadent, après avoir fait une civilisation qu'on appelle brillante, qu'on appellerait plutôt décadente et pourrie. Et les Turcs sont au contraire des nomades aguerris, comme les premiers Arabes, des loups maigres, qui viennent des solitudes de la Haute Asie, et vont prendre Bagdad en 1055. Et les Turcs vont créer un nouveau califat, qui, heureusement pour les chrétiens, va être en rivalité avec le calife du Caire. Un soldat énergique, l'empereur de Byzance qui s'appelle Romain Diogène, il vient de monter sur le trône de Byzance. En 1071, avec 100 000 Romains, il va s'affronter aux Turcs, mais ses généraux le trahissent en plein champ de bataille, et voyant qu'il est perdu, il se défend comme un lion, il est vaincu et prisonnier. Le Turc le traite poliment, et après un certain temps le libère, et ce sont les gens de Byzance qui vont lui crever les yeux. Le royaume divisé contre lui-même périra. Cette bataille de Malzegred est une bataille importante, elle va commencer à mener la domination turque sur tout le Moyen-Orient. Les informations que je donne dans la conférence viennent du livre de René Grousset, L'épopée des croisades, qui est passionnant à lire, mais qui fait souffrir quand on voit toutes les erreurs que les croisés ont quand même commises, malgré, je dirais, le pape qui avait essayé de diriger les choses au mieux. Après la chute de Malzegred, la défaite de Malzegred, en 10 ans, les trois quarts de la Turquie sont conquis par les Turcs. Les progrès des Turcs sont aidés par l'incroyable absence de patriotisme des généraux byzantins qui se disputent le trône. Encore une fois, la division, tout royaume divisé contre lui-même, péria. L'un de ses prétendants appelle les Turcs comme alliés et les installe à Nicée face à Constantinople. Nos anciens chroniqueurs et nos hommes politiques de l'époque ne s'y sont pas trompés. Ils ont vu le danger pour l'Europe, créé par l'effondrement de l'Empire byzantin qui s'annonce incessant. Il faut donc l'entrée en scène des Francs, d'une nouvelle force militaire, pour sauver l'Europe qui est directement menacée. La réalisation de ce projet reviendra au pape Urbain II, et son action va changer le cours apparemment irréversible de l'histoire pendant plusieurs siècles. Donc, pour le pape, il voit ce qu'était la chrétienté de la Mare Nostrum romaine, je dirais submergée par un fléau qui va depuis pratiquement l'Anatolie, les anciennes églises à qui Saint Paul avait envoyé ses lettres. Non, Saint Jean, dans l'Apocalypse, envoie la lettre aux sept églises d'Asie. Éphèse, Pergame, sont noyées par l'islam. Elles survivent encore, mais de plus en plus mal. Toute l'Alexandrie, tout ça, jusque l'Espagne qui est embêtée. Alors, Urbain II, qui c'était? Il est d'origine champenoise, c'est un moine de Cluny. Et c'est de Cluny qu'étaient partis, au XIe siècle, les pèlerinages et les expéditions de chevaliers qui avaient pour objet d'aider les Espagnols dans la reconquête de leur pays. Quand il a 20 ans, le futur pape Urbain II voit partir un de ses compagnons, Eble de Roussy, avec les chevaliers français de l'Est, au-delà des Pyrénées, pour aider à chasser les Arabes de l'Aragon. Devenu pape en 1089, Urbain II lance sur les routes d'Espagne une autre expédition française, composée ce coup-ci de Jean du Midi, tout ça pour aider l'Espagne dans sa reconquête. Et en un sens, dit l'auteur Grousset, la reconquête, la reconquista espagnole, peut être vue, considérée comme une grande manœuvre précédant les croisades. Donc, en 1095, Urbain II repasse les Alpes, vient en France se ressourcer à Cluny, son abbaye initiale, et va à Clermont, dans un concile, prêcher la croisade. Il a un succès fabuleux. Et cet ébranlement, causé par la prédiction d'Urbain qui vise dans un premier temps les chevaliers du Nord, il veut embarquer dans la croisade ce qu'on appellerait maintenant le Brabant, la Hollande, la Lotharingie, la Lorraine, quoi. Mais il a un ébranlement énorme. Le comte de Vermandois, frère du roi de France Philippe Ier, se croise. Le comte de Normandie, Robert de Courteheuse, fils de Guillaume le Conquérant, se met dans le coup. Le comte des Flandres, Robert III, enfin bref, l'impact de sa prédication dépasse largement ses objectifs. Dans les futurs Pays-Bas, le duc de Basse-Lorraine, duc de Brabant, on dirait maintenant, Godefroy de Bouillon, va se joindre à la croisade, et son frère, qui est dans la mouvance française, Baudouin de Boulogne. Le nombre de croisés va être si grand qu'on va faire 4 corps d'armée pour pouvoir gérer cette affaire. Mais de plus, l'enthousiasme va susciter un élan désordonné des foules, et bien avant que les troupes régulières soient prêtes, il y a une bande, je dirais, de non-militaires qui s'agrègent sous la conduite de Pierre l'Ermite et de Gauthier sans avoir, et qui décident de faire eux aussi croisade, je dirais d'une manière imprudente au sens des vertus théologales. Ils vont partir, ils vont arriver à Constantinople. Devant cette troupe indisciplinée et mal gérée, l'empereur leur dit: écoutez, je vous donne de l'autre côté de la mer une place forte à occuper, mais restez pas à Constantinople, ça va faire des histoires. Et là, poussés par, une espèce de folie, ils attendent que Pierre l'Ermite aille faire un voyage à Constantinople auprès de l'empereur de Byzance pour attaquer les Turcs, billes en tête, sans aucune préparation. Ils se font hacher. Ils se font massacrer. René Grousset dit: c'est une écume de l'organisation, parce que le pape Urbain II était un homme très organisé et méthodique, et je crois qu'on va le voir, on va le constater, Et c'est vraiment l'écume de l'affaire, ce n'est pas le fond du problème. La première croisade, c'est la croisade des chevaliers. Ceci dit, il est certain que c'était aussi une faute politique, parce que ces hommes qui vont se faire hacher, en auraient eu drôlement besoin, après la conquête, pour occuper le terrain, occuper le pays, faire une colonisation au sens fort du terme. D'ailleurs, ça va être prévu par le pape. Il va y avoir une deuxième expédition qui va partir après la première de l'armée régulière, et elle aussi va s'indiscipliner. Malgré l'ordre de ses chefs, va partir ailleurs que sur Jérusalem, et elle va se faire aussi écraser par les Turcs. Et encore une fois, ces hommes vont beaucoup manquer pendant le reste de l'histoire. Bon. D'autres mouvements existent en Europe, mais alors beaucoup plus désordonnés, où des brigands sous couvert de croisades vont s'unir, vont traverser l'Europe avec des pillages, mais ils vont se faire éliminer sur le chemin par les différents princes qui gouvernent et qui veulent se défendre à juste titre. L'armée de la croisade est formée de contingents de la France du Nord, de la langue d'Oil, de la France du Midi, de la langue d'Oc, de la Belgique, de Flamande et Wallonne, du Saint-Empire, et du royaume normand des deux Siciles, arrive aussi un contingent. Comme dénomination commune, les croisés prennent le nom de Francs, donnant à ce mot le sens qu'il avait au temps de l'unité carolingienne, quand la Gaule, la Germanie, l'Italie ne formaient qu'un seul empire, sous l'égide de l'Église romaine. Mais je vois aussi un autre symbole. Franc, ça veut dire libre. Quand on parle librement, on a son franc-parler. Quand on n'est plus esclave, on devient franc, on est affranchi. Et l'île de France, ce n'est pas une île. C'était un îlot d'hommes libres dans des gens qui ne l'étaient pas. C'est donc évidemment l'île de France qui va rayonner et prendre tout le reste autour d'elle. Donc, il s'appelle Franc. Et musulman, ça veut dire les soumis. Et on voit bien la lutte entre les libres et les soumis qui se dessine là. Ils prennent comme par hasard, ou peut-être sûrement volontairement, le titre qui les distingue des autres. Les uns se disent les soumis, eux, ce sont les hommes libres. D'ailleurs, ce sens de musulman qui veut dire soumis leur permet de faire, je dirais, un anachronisme fabuleux en disant Abraham était soumis à Dieu, était musulman à Dieu, donc c'est un musulman. Alors, quels sont... Alors, donc, le pape, c'est un champenois, organisateur méthodique, qui a vu faire la croisade, qui a organisé une première expédition, disons, contre les Arabes. Et les hommes, maintenant, les chefs de la croisade, qui y a-t-il ? Alors, on va commencer par le duc de Brabant, Godefroy de Bouillon, à tout seigneur, tout honneur. La mère était l'héritière des ducs de Brabant, la Basse-Lotharingie, pays d'Empire. Son père était comte de Boulogne-sur-Mer, royaume de France. C'est un chevalier du Nord, très grand, large poitrine, taille mince, très fin, cheveux blonds, une force stupéfiante, une force extraordinaire. Il s'est battu en corps à corps avec un ours. Il a failli perdre, mais il a gagné. Comme il était réputé pour sa force, un jour un cheikh arabe lui amène un chameau en disant « Il paraît que tu peux le décapiter d'un seul coup d'épée. Peux-tu me le montrer ?» Alors il a pris son épée, crac, il a coupé la tête du chameau et au ras de l'encolure, là où c'est le plus difficile. Et le cheikh a admiré la force de cet homme-là. Dans un combat, d'un coup d'épée, il va couper en deux l'homme qui était en face de lui, au point que le buste va tomber d'un côté et les pieds vont continuer avec le cheval. Enfin bref, c'était une force de la nature. Et puis c'est un vaillant guerrier. À la bataille de Dorylée, la première bataille que va faire la croisade, il va être le premier qui va contribuer à rétablir un équilibre compromis, on verra dans quelles circonstances. C'est un grand chasseur, on a vu sa bataille avec l'ours. Il est d'une loyauté proverbiale. Sa piété est exemplaire, et l'éclair qui l'escorte, pensant lui faire une mauvaise publicité, va dire il est embêtant parce qu'avec lui on mange ouf trop froid ou cuit, ou trop cuit, parce qu'il prie trop longtemps avant de manger. Et c'est cet argument critique qui va décider les comtes francs à le nommer roi de Jérusalem. Bon. Il refusera d'être à Jérusalem roi, il veut être simplement avoué du Saint-Sépulcre, et il mènera une vie très simple, recevant les cheikhs arabes qui auront le goût du faste et du luxe, assis à même le sol dans sa tente, appuyé sur un coussin de paille, avec aucun décorum. Et les gens sont surpris de voir cet homme qui est si fort au combat, si vaillant, mettre une si puissante armée, avoir une vie quasiment d'ascète. Et vous voyez comment la valeur d'un vrai chrétien peut retentir même sur l'ennemi musulman. Ses hautes qualités morales vont lui faire jouer le rôle d'arbitre, et finalement, on le nommera roi, parce qu'il n'y a que lui qui, je dirais, qui tient la route là-dessus. Et si vous me permettez, il me semble illustrer la formule de Jésus, « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. » Avec lui, il y a un Normand d'origine qui vient du royaume des deux Siciles, Bohémond de Tarente. Dévoué à l'église romaine, mais doué d'une ambition, je dirais presque insatiable, illimitée. Et il n'a pas trop de scrupules. C'est un riche tempérament, une intelligence avisée, un excellent stratège, et il va le montrer plusieurs fois. Soldat épique, dit Grousset, bouillant encore de la fougue des rois de la mer vikings qui étaient ses ancêtres. Et d'une incroyable audace, il va faire des choses ahurissantes et qui, dans certains cas, vont lui porter bonheur. Ce grand nordique associe à l'astuce sicilienne la rouerie italienne et normande. Il est aussi à l'aise face aux diplomates byzantins qu'avec son invincible épée face aux Turcs. Son neveu, Tancrède, se révélera aussi un excellent guerrier et un très bon administrateur. Autre grand chef de la croisade, le comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, qui est une personnalité complexe. Il était le premier à être mis dans le coup par l'empereur, par le pape. C'est un méridional passionné, mais un caractère inquiet et inégal, qui va avoir les meilleures comme les pires actions. Entre autres, la croisade de peuplement, c'est-à-dire les bonnes gens qui vont venir en deuxième vague après l'armée de métier, qu'il a pour mission de conduire derrière l'armée de métier pour dire, tenir le terrain, va en quelque sorte se révolter, enfin imposer d'aller faire 80 degrés par rapport à la trajectoire, soi-disant pour aider, sauver quelqu'un. Comme il était leur chef, il se sentit obligé de les suivre, et non pas de les commander. Et voyant que l'affaire tournait vraiment très mal, il s'est échappé, il les a laissés au massacre. Ceci dit, devant Tripoli, une ville du littoral, on dit qu'il a fait le siège à lui tout seul. Il s'est rattrapé là. Et il s'est trouvé qu'avec ses hauts et ses bas, il a accepté volontiers de ne pas avoir, comme les autres, chevalier l'avait, des volontés, des ambitions territoriales. Parce que manifestement, il y en a d'autres comme Bohémond qui voulaient se tailler un empire, un comté, un royaume, ce que vous voulez, et être les patrons d'un fief. Alors, Urbain II, qui était un malin, qui était un organisateur, il s'est dit, si je nomme l'un de ces barons patron de l'affaire, les autres vont être jaloux, ça va faire des histoires. Alors il a nommé un archevêque, chargé des coordonnées, et un sage archevêque, Adhémar de Monteil. Bon. Les croisés, donc, s'en vont, et par différents chemins, arrivent à Constantinople. Alors imaginez l'empereur de Byzance, qui voit arriver des gens, une armée forte, très forte, impressionnante, dont un des corps d'armée est dirigé par le fils du roi qui lui a fait une guerre longue et cruelle 10 ans avant, quoi. Alors, bon, on négocie, on les fait passer l'autre côté du détroit de Marmara, mais avant d'aller plus loin, il leur dit de prêter serment que tous les territoires qu'ils vont reconquérir seront sous sa suzeraineté. Vous serez peut-être les maîtres, mais moi, je serai votre suzerain. Alors, Bohémond, qui est un arriviste, il est prêt à signer n'importe quoi pour avoir l'alliance des Byzantins. Et Godefroy de Bouillon ne veut pas. Il dit non, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour défendre l'église catholique romaine. Je ne suis pas venu pour les orthodoxes. Enfin, bref. Les gens de Byzance qui sont des malins font en sorte qu'on arrive presque à l'affrontement grec contre latin. Et tous les gens de la croisade, voyant que ça tourne mal, supplient Godefroy de Bouillon d'accepter le serment d'allégeance, il le fait. Raymond de Saint-Gilles, lui, refuse de promettre autre chose que de respecter la vie et les biens de l'empereur. Ça, je vais vous le promettre, le reste, c'est pas votre problème. Bon. Une fois l'accord politique trouvé, les Francs, massés à Constantinople, passent en Asie mineure et commencent à s'avancer en pays turc. Et comme ils sont arrivés, vous savez, vous voyez la Turquie qui fait une espèce de rectangle, ils sont arrivés là, ils vont donc partir en diagonale pour aller du côté d'Antioche et puis sur la route de Jérusalem. Et comme ils sont très nombreux, que le territoire est désertique ou très mal irrigué, pour ne pas que l'armée puisse trop souffrir du terrain, ils se divisent en deux corps d'armée qui se séparent et qui vont chacun parallèlement l'un à l'autre. La première, la première ville qu'ils rencontrent sur leur trajectoire, c'est Nicée. Alors, ils vont faire le siège de Nicée. Alors, les Francs d'un côté, une armée de bateaux amenés par Byzance, des matériels de guerre amenés par Byzance, vont faire que la ville va capituler au moment où on est passé à l'assaut. Et les Francs sont paraît-il vexés parce que c'est les Byzantins qui recueillent la résidition, et pourtant c'est dans les accords. Bon. Il faut donc, maintenant qu'on a gagné la ville, traverser le désert. On s'en va, deux corps d'armée en avance. Les Turcs, apprenant que le corps d'armée franc est divisé en deux, vont faire ce qui est normal en toute guerre, ils vont concentrer les forces sur l'un des deux corps d'armée, celui que Bohémond, le Sicilien normand, est en train de piloter. Et il tombe sur lui à toute vitesse, enfin très fort, au point que dans un premier temps, pris en ordre de marche, sans préparation, sans préavis, ils sont submergés. Mais c'est un fin tacticien, il regroupe ses troupes pour se défendre acharnement en espèce de carré, si vous voulez, et il a envoyé quelqu'un demander du secours à l'autre corps d'armée, qui va arriver à midi. Ils vont arriver à midi, et astucieusement, ils vont profiter des replis du terrain pour littéralement encercler les Turcs et leur tomber dessus de tous les côtés. Ça va être une victoire, et les Turcs ne vont pas pouvoir s'en sortir. Parce que les Turcs avaient une méthode de combat, encore une fois, basée sur la vitesse. Les gens étaient à cheval, n'avaient pas d'armure, et ils tiraient des flèches sur les croisés. Alors les croisés chargés, ils s'échappaient, ils revenaient, tiraient des flèches, et quand ils ont vu que les croisés commençaient à être fatigués de cette course parce que les chevaux, ils avaient quand même un homme chargé sur le dos, hein. Alors, pour vous donner une idée du poids de ces armures, il faut raconter une histoire vraie. Quand on a tourné le film de Jeanne d'Arc, Ingrid Bergman devait jouer le rôle de Jeanne d'Arc, on lui avait prévu une armure comme Jeanne d'Arc. Elle n'a pas bougé. Alors, elle a dit, oui, c'est vrai, c'est trop lourd, on va lui faire une armure en aluminium, trois fois plus légère. Elle n'a toujours pas bougé. Alors on lui a fait une armure en carton-pâte peint, elle a pu faire ce rôle. Alors vous imaginez ces gens qui ont passé des journées à cheval avec cette armure sur le dos. J'ai vu ce qu'on appelait une salade, c'est-à-dire le casque, le home si vous voulez, qui faisait 8 kilos quand même. Et à cheval et à la chaleur quoi. Donc c'était des colosses de résistance et de puissance pour porter tout ça. Bon, passons. Alors donc les Turcs attaquent à la fin. Bohémond rassemble son armée, les autres arrivent par derrière, et naturellement, le premier sur le champ de bataille, c'est Godefroy de Bouillon, avec 50 de ses cavaliers, et il commence à se lancer à bataille. Rendez-vous compte, il a 50 cavaliers, et il rentre dans une meute qui en fait, je sais pas, 10 000, quoi. Mais c'était comme ça, quoi, ils attaquaient. Bon, les autres arrivent, c'est une déroute fabuleuse, ils ramassent beaucoup de butins, et en particulier des vivres qui leur permettent d'avancer dans leur progression. La ville d'après, ils espéraient se refaire, mais elle est vidée de ses habitants et vidée de ses ressources. Ils continuent avec un peu de disette et ils arrivent finalement dans une région boisée où enfin, par la chasse, tout ça, ils peuvent refaire des vivres. Et cette bataille de Dorylée marque l'apparition sur le champ géopolitique de cette force qu'on appelle les Francs, qui pendant deux siècles va changer l'histoire du Moyen-Orient. Deux, trois siècles va changer l'histoire du Moyen-Orient. Et depuis la capture en 1071 de l'empereur romain Diogène, dont j'ai parlé, les Turcs dominaient l'Orient. Et en 1097, la victoire française ouvre deux siècles d'hégémonie européenne, durant laquelle l'avance turque reculera devant les Francs, en Syrie et en Palestine, et aussi devant les Byzantins en Asie mineure. On continue donc la traversée. Et dans cette traversée, on va rencontrer des îlots de résistance d'Arméniens. Les Arméniens étaient plutôt sur la frontière du Caucase, là-bas, la Grande Arménie, mais l'avance des Turcs les avait fait reculer. Ils se retrouvaient maintenant sur les bords de la Méditerranée, enfin étalés tout le long. Certains de leurs chefs avaient pu installer des nids de résistance dans la montagne, mais ils étaient quand même sous l'oppression turque déjà à cette époque. Mais quand ils voient arriver les Francs, ce sont pour eux des alliés naturels, ils sont chrétiens tous les deux. Et d'ailleurs, très vite, il va se faire des mariages franco-arméniens, franco dans le sens franc, hein, arménien, et ils vont être d'excellents guides et d'excellents soldats. Et dans certains cas, ils vont permettre d'avoir les renseignements sur la ville, sur tout ça. C'est un grand peuple, les Arméniens. Ils sont courageux. Bon. Avec les Arméniens, avec l'aide des Arméniens, une des colonnes prend plusieurs villes de Cilicie, mais on va retrouver la bonne vieille rivalité française, le non-dévouement auquel je faisais allusion ce matin. Les chefs se disputent la possession des villes qu'ils vont prendre, et donc ils prennent rien du tout. Et donc ils vont continuer. Le 21 octobre 97, Bohémond et son avant-garde arrivent devant Antioche. C'est une ville redoutable qui a 400 tours ou bastions qui la protègent. Sans compter des protections naturelles liées à un fleuve, à une montagne, etc. Et eux, ils n'ont pas de matériel de siège. Et ils essayent, ils ne peuvent même pas faire le siège, seulement ils sont peu nombreux que la ville est grande. Alors ils font des patrouilles pour limiter les ravitaillements. Et moi j'y vois un signe de la préparation du pape. Il arrive comme par hasard une escadre avec du matériel de siège dans le port qui est à quelques kilomètres d'Antioche. Donc on va chercher du matériel de siège et on apprend qu'une armée turque arrive. Il faut donc prendre la ville avant que les Turcs arrivent. Et c'est un Arménien renégat, dit-on, c'est-à-dire qui était passé à l'islam, mais qui a été vexé, qui va donner à Bohémond des idées pour prendre la ville. Et ils vont la prendre de nuit, ils vont prendre la ville d'Antioche, et à peine installés dans la ville d'Antioche, les Turcs arrivent et font le siège. Donc ils passent d'assiégeant à assiégé. Et ce coup-ci, ils n'ont pas de vivres, et la disette commence à se mettre dans leur camp. Les gens se découragent, mais Bohémond, qui veut garder la ville d'Antioche comme son fief, il va faire des pieds et des mains pour tenir les gens en alerte, pour garder le contact, enfin pour réveiller les gens. Et il va se passer un miracle. Il fallait ça pour les sauver. Un des pèlerins dit qu'il a vu en songe l'endroit où était cachée à Antioche la lance de Longin qui avait percé le corps du Christ. On cherche et on trouve effectivement la lance. Les croisés, pris d'une nouvelle ardeur, décident de passer à l'offensive et ils sortent leurs troupes pour offrir la bataille. Si le chef turc avait attaqué au moment où les troupes sortaient pour se ranger en bataille, il aurait probablement fait du tort aux Francs. Dieu a permis que dans sa fatuité, il dise « Je vais laisser toute l'armée sortir, quand elle sera sortie, je la battrai en entier, j'en finirai une fois pour toutes. » Et donc il laisse le Normand, Bohémond, stratège, bien installer toutes ses troupes en ordre de bataille. Deuxième erreur du Turc, sa force principale résidait dans ce tournoiement des archers qui harcelaient les gens, qui faisaient une foule de pertes avant même que le combat commence, enfin que le corps à corps commence. Il attend, soi-disant de pied ferme, la charge franque qui l'écrase. Là, devant les chevaliers francs armés, comme ils étaient, pas des gens qui n'avaient pas d'armure, il n'y a aucun problème qui se pose, les francs l'emportent. Il va essayer de faire un mouvement tournant, mais Bohémond le prévient et lance des gens sur lui. Et on va Alors là, Bohémond va faire un truc intéressant. Il va interdire le pillage du camp, sous peine de mort, en disant maintenant, on poursuit l'ennemi. Ils vont le poursuivre tellement loin, que finalement, ils vont pouvoir piller tranquillement. Ils vont mettre 6 mois pour se récupérer, attendre les vivres, etc., etc. Et ils disputent la possession d'Antioche. Bohémond a fait une entourloupe pour avoir ça pour lui, on lui reconnaît un parti. Mais on donne aux Génois, comme ils ont besoin de secours, un quartier de la ville. Et on repart, au bout de 6 mois, et une nouvelle place forte se présente devant eux, elle est prise, et rebagarre pour le partage. Alors là, ce coup-ci, la troupe, elle a dit, non, ça ne va pas, cette histoire. Si on ne va pas se battre pour que vous ayez des empires, on est là pour faire la croisade, pas pour ça, eh bien, vous n'aurez pas la ville. Et ils ont détruit la ville, rare. Vous êtes content? Non, il n'y a plus de ville. On ne va pas vous la partager, il n'y en a plus. Alors, Saint-Gilles, le Toulousain qui change d'avis, croit qu'il repart en tête, et il repart. Et il repart, il va rencontrer de l'ennemi. Donc, Godefroy de Bouillon, pendant qu'on se bat, il arrive à ce nom-là, parce qu'il dit, je suis comme ça, je m'en vais ailleurs, quoi. Entre-temps, il y avait un de ses cousins qui avait pris un comté d'Edesse à côté, quoi. Bon. Le 13 janvier, donc, la croisade reprend et les petits émirs, effrayés, long de la côte, donnent les ravitaillements à l'armée de Franck et ne veulent pas se battre. Et ces émirs étaient tellement effrayés qu'ils étaient prêts à capituler. Il va falloir une faute politique et guerrière pour les faire se battre jusqu'au... Enfin, longtemps. Beyrouth, Tyr, Saint-Jean d'Acre fournissent les vivres de la part de chefs musulmans, hein, je précise. Et puis aussi, ils ont reçu une ambassade du calife du Caire, musulman, qui n'était pas content que les Turcs lui aient pris Jérusalem et tout ça, et il dit aux Francs, je vous laisse toute la Syrie, et vous me laissez Jérusalem. Les Francs disent, d'accord, voici, tout à fait d'accord, vous nous laissez la Syrie, attaquez les Turcs, bon, eux ils attaquent les Turcs, ils reprennent Jérusalem, ce qui fait que les Turcs se battent sur deux fronts, et ils descendent comme ça, doucement, le long de la mer. À hauteur d'Emmaüs, Godefroy de Bouillon envoie une patrouille vers Bethléem, et quand les chrétiens de Bethléem voient arriver les troupes franques et leurs troupes, ils sortent à leur rencontre en procession en chantant des hymnes, tout rite confondu. Le 7 juin, l'armée franque tout entière arrive et voit les dômes de la ville de Jérusalem, défendus ce coup-ci par les Égyptiens et non pas par les Turcs. Les croisés se mettent à genoux, pleurent d'émotion, et ils s'avancent jusqu'à voir distinctement les tours et les murs de la ville. On est à la mi-juin, il fait chaud, on n'a pas de matériel de siège, encore une fois. Mais encore une fois, comme par hasard à ce moment-là, il arrive à Jaffa, une escadre génoise avec du matériel pour faire du matériel de siège. Et je ne peux pas m'empêcher de voir là aussi le coup de patte du pape, qui comme par hasard dit, ils vont mettre tant de temps, ils sont là, ils font... Et en plus, il ne fallait pas envoyer l'escadre trop vite pour pas qu'elle tombe fesse sous blanc, quoi. Hein, parce que si elle arrive avant que la ville soit libérée, les gens ne peuvent pas débarquer. Donc l'escadre amène du monde et du matériel, on va faire du matériel de siège. Et la chaleur était torride, l'eau manquait, on manquait de matériel de siège donc. À Jaffa, l'escadre génoise apporte du main vivre du matériel. Et avec les matériels, on fait des tours géantes mobiles, capables d'emmener les chevaliers au niveau des remparts. Mais les Égyptiens, ils ont à leur service le feu grégeois. Le feu grégeois, c'était un feu que l'eau n'arrivait pas à éteindre. Et j'ai entendu dire qu'on avait perdu le secret. Peut-être c'était la naphte, mais non, ils connaissaient la naphte, ils auraient dit que c'était un feu de naphte. Enfin, ils avaient une manière d'enflammer, et on ne savait pas éteindre ce feu. Alors, les premières tours sont enflammées, donc on ne peut pas attaquer avec ça. Mais le lendemain, d'autres tours sont amenées de nuit. Godefroy de Bouillon a fait tuer des moutons et mettre des peaux fraîchement écorchées sur la tour pour protéger du feu. Et lui, il est là-haut, et il sera le premier à passer sur le mur adverse. Alors, quand cette tour arrive, les gens se massent pour essayer de l'empêcher. Bon, Godefroy lance sa passerelle, se précipite avec quatre chevaliers, apparemment capables de déblayer le terrain. Et du coup, les autres endroits étant libres, les échelles sont prises d'assaut et le mur est occupé. Les musulmans refluent, ils vont se refluer sur la tour de David, la tour Antonia, qui était à côté du temple, pour surveiller le temple par les Romains, qui est une forteresse. Ils vont se réfugier dans la mosquée d'Omar, qui est bâtie... Il y a une mosquée qui est bâtie à la place où était le temple détruit de Jérusalem. Ils se réfugient dedans, et dans une autre mosquée aussi, et ils veulent en faire des réduits de défense. Et il y en a une, ils se battent comme des chiffonniers, et il faut se battre jusqu'à l'intérieur de la mosquée pour arriver à gagner le terrain. Tancrède, voyant qu'il y avait un autre endroit qui était encore chargé, se précipite sur l'autre mosquée, et là, il trouve des gens qui demandent l'amant, la paix. Alors, il raisonne qu'il ne faut pas perdre son temps avec cette histoire-là. Il leur donne sa bannière en tant que garantie qu'ils sont protégés, et vite, ils se précipitent pour attaquer l'autre forteresse, Antonia, où il y a les autres des troupes. Tout ça, avec des bagarres dans les rues, etc., il faut progresser, quoi. Mais pendant la nuit, une autre vague d'assaut, dans la nuit ou le matin, on ne sait plus très bien, mais je vous ai dit, je ne sais pas quand, a quand même tué tous ses prisonniers, ce qui a causer un déplaisir de voir sa parole non respectée et surtout perdre la rançon qu'il espérait de ses prisonniers. Mais ça, c'est une faute politique. On va le voir après. Bon, Il arrive sur la forteresse. Alors, quand l'homme sur la forteresse d'Antonia voit que les croisés ont gagné la ville et qu'il est au sein de la forteresse, il négocie avec Tancrède sa reddition, moyennant la vie sauve. Ça lui est promis, mais ce coup-ci, il donne une escorte pour l'amener jusqu'à Ascalon, la prochaine ville gardée par les Égyptiens. Donc, on a gagné Jérusalem, mais le massacre a été tel que dans le temple, les croisés disent, on marchait du sang jusqu'aux chevilles. Et le massacre est tel que ça les écœure de voir tous ces morts. C'était un massacre. Et Adhémar de Monteil, l'évêque, là, il trouve que c'est une faute, non seulement contre Dieu, on ne tue pas des prisonniers, parce que la guerre n'enlève pas tu ne tueras pas. Dès que l'homme a de faire ses désarmés, enfin, suivant le code chrétien, on n'a plus le droit, enfin, s'il ne se bat plus, on n'a pas le droit de se battre avec lui. On ne va pas tuer un homme désarmé. Pourquoi c'est une faute de grave? C'est une faute de contre Dieu, donc une faute politique, parce que toutes les villes de la côte qui étaient prêtes à se rendre, apprenant le sort dramatisé un peu par les historiens arabes, parce qu'en arabe on raconte des choses bien, quoi, hein, toujours. Ce n'est pas spécialement une volonté de mensonge, c'est histoire d'embellir, quoi. Eh bien, ils vont se battre comme des chiffonniers, ils vont refuser de se rendre, et il va falloir la croix et la bannière, qu'à le dire, pour arriver à libérer ces ports et refaire une Syrie franque. Comme quoi, le fait d'avoir laissé, j'allais dire, des gens perdent leur sang-froid, parce que vous savez, le combat, c'est quelque chose d'enivrant. Il y a une espèce d'ivresse du combat qui est affolante, quoi. On ne se contient plus, c'est une espèce de fureur qui prend les gens. Eh bien, le fait d'avoir pas contrôlé ça, ça va coûter des dizaines d'années de travail pour gagner tous ces ports qui étaient prêts à se rendre. C'est catastrophique. Donc, le 15 juillet, Godefroy de Bouillon ouvre le bas et le soir, la ville est prise. Et le lendemain, après l'horreur, après tout ça, les croisés se lavent et vont faire, avec tous les rites chrétiens confondus, une procession au Saint-Sépulcre pour remercier le bon Dieu de la victoire qu'il leur a donnée. On décide alors d'organiser la conquête. Qui va commander tout ça? Alors, il y a des candidats, mais les autres, par jalousie, s'y opposent, et il n'y a que Godefroy de Bouillon qui fait le moins peur aux autres. Alors, on lui accorde la couronne de Jérusalem. Il refuse de la prendre. Et, refusant de la prendre, il va se prendre le titre d'avoué du Saint-Sépulcre, en disant, je ne veux pas porter une couronne d'or, là où le Christ a porté une couronne d'épines. Et c'est là, alors ça c'est toute l'histoire de la croisade, je viens de montrer comment les ambitions territoriales des croisés, des chefs croisés, a flanqué une belle pagaille. J'ai passé rapidement, mais il y a eu d'autres endroits où il a fallu intervenir. Et dans le futur aussi, il va arriver des tas d'histoires, où on va voir même la fille du roi de Jérusalem, qui a épousé le duc d'Antioche, le comte d'Antioche, faire appel aux Turcs pour se défendre contre le roi de Jérusalem chrétien, quoi. Et il va falloir que les gens de la ville, je veux dire, menacent la maîtresse des lieux pour qu'elle consente à mettre les pouces, quoi. Bon. Il y a des histoires assez fantastiques qui sont produites pour plus tard, mais pour l'instant, on en est là. Jérusalem est prise. On va installer un gouvernement, un royaume, et c'est Godefroy de Bouillon qui va prendre le royaume. Mais il y a dans l'expédition un archevêque simoniaque qui, lui, est ambitieux, et il veut être patriarche du Saint-Sépulcre. Alors, il convainc facilement, comme il s'appelle, Godefroy de Bouillon, de lui laisser le titre de patriarche et le revenu de la ville de Jérusalem, en échange de quoi il n'a qu'à se trouver un endroit pour vivre roi sans couronne à côté. Et c'est dommage, parce que cette élection a été faite, je dirais, sans l'aveu du pape. Il s'est autoproclamé, parce qu'il avait le sens de la magouille, on dirait maintenant. Parce que le pape aurait probablement nommé quelqu'un d'autre. Et qui plus est, il y en a un autre évêque, archevêque, qui est en liaison avec Bohémond, une Tarente, et qui lui aussi n'a pas des mœurs parfaitement régulières. Il va falloir du temps aux croisés pour le dénoncer au pape, etc., et faire en sorte qu'il soit, je veux dire, déplacé, pour ne pas dire révoqué. Mais on voit comment, dans toute histoire, même menée par la main de Dieu, on voit comment l'homme, il est vraiment fait de péché originel, quoi. Et le péché nous teinte partout. Et des gens comme Bohémond, qui étaient des gens d'excellents guerriers, d'excellents administrateurs, ils vont faire des choses ahurissantes, quoi. Bon, n'aura pas le temps d'y revenir. Et en permanence, s'il y avait une règle à tirer de ce qu'on a, de cette histoire trop rapidement racontée, je veux dire la chose suivante. Les croisés vont avancer pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont envie de jouer. Ils ont envie de se battre. Ils ont envie d'aller au Saint-Sépulcre. Et même s'il y a des ambitions territoriales, ils ont au fond de l'âme le besoin d'aller au Saint-Sépulcre. Et ils vont pleurer d'émotion, tous, toute l'armée. Deuxièmement, en face d'eux, les musulmans sont divisés. L'armée turque qui vient venir pour défendre Antioche venait de Damas. Non, venait d'Alep. Non, excuse-moi. Il y a eu trois expéditions turques pour essayer de prendre Antioche. Après la première qui s'est fait battre pour Bouka, il y a eu deux autres expéditions qui sont venues pour reprendre, mais la première a été arrêtée par une porte-patrouille franque, disons. La deuxième, Bohémond, qui est un fin stratège, est allé les attendre en avance sur leur terrain, de manière à ce qu'ils soient coincés par, d'une part, la montagne dont je vous ai parlé, et le fleuve. Ce qui fait qu'étant à l'étroit, ils ne pouvaient pas avancer et faire le combat tourbillonnant. Alors, ils les laissent bien rentrer dans la nasse, et après, la charge franque, les lourds chevaliers, rentrent dans la masse, flanque la panique au premier rang, qui au second, au troisième, et tout ça va se débander. Bon, une autre fois, il va y avoir, pareil, Bohémond s'est avancé avec son armée sur la route de Jérusalem, et il s'est avancé trop vite, avant d'avoir les secours. Et il se rend compte brusquement que la situation est mal barrée, comme on dit. Alors, il fait semblant de reculer, et il fait rentrer là aussi les Turcs dans la nasse. Et quand ils sont bien dans la nasse, après avoir fait semblant de s'échapper, il revient, et comme les chevaliers qui font la poursuite sont en ordre dispersé, et encore une fois, la cavalerie franque, là-dessus, fait un malheur, et ça refait partir tout le monde au loin. Alors, chaque fois que les Francs sont unis entre eux, chaque fois, ils vont gagner. Et pourtant, on va voir à un moment donné une bataille avec Turcs et Francs d'un côté, contre Turcs et Francs de l'autre côté. C'est des histoires invraisemblables. Bon, alors à côté de ça, il va y avoir des faits d'armes qui rappellent presque la Bible. Quand le roi Baudouin, le lépreux, de 17 ans, avec 400 hommes, va défaire une armée de 20 ou 30 000. Et ils ont vu qu'ils étaient... Il n'y avait plus que ça comme défenseurs de Jérusalem. Les troupes étaient en train de se battre au nord avec les Turcs, et une troupe arrive du sud, coordonnée ce coup-ci entre Turcs et Égyptiens. Ils font la prière, ils portent la croix en avant, et ils décident d'attaquer. Et les historiens arabes, ils disent, sont arrivés souples comme des loups, hurlant comme des chiens, et ils n'ont pas dit déchaîner comme l'enfer, mais presque, quoi. Et ils ont emporté la victoire. C'est inexplicable. Et là aussi, le jeune roi lépreux, Baudouin, interdit le pillage du camp, il fonce à poursuite des fuyards pour, comme on dit, exploiter les faits. D'autres fois, vous voyez encore une fois comment les gestes, je dirais, chrétiens politiques sont aussi de bonnes politiques. Après avoir pris le camp, dans une attaque, parce que le roi de Jérusalem, on lui faisait le coup des réseaux. Alors lui, il fait pareil, il fait des réseaux chez les autres. Et puis à un moment donné, il prend un grand camp, et on lui annonce que dans le camp qui a été pris, il y a une princesse qui allait accoucher. Alors, il lui donne une tente somptueuse, deux chamelles pour allaiter l'enfant qui va naître, et une garde, enfin, il laisse ses servantes pour l'accouchement. Le chef qui avait appris la défaite de l'armée, qui ne savait pas où était sa femme, revient fou d'inquiétude sur le terrain, voir s'il y a des traces, et voit sa femme traitée comme une princesse et pas de soldats autour. Et c'est lui qui va trahir son camp pour permettre au chef qui avait sauvé sa femme de s'échapper d'une nasse dans laquelle il s'est tiré. Vous voyez, chaque fois que les croisés font quelque chose qui est conforme à la loi de Dieu, chaque fois ils ont des fruits derrière importants. Et chaque fois qu'ils vont faire un écart, chaque fois j'ai le sens. Je vous dis mon sentiment, hein, je n'ai pas de preuves formelles, je ne suis pas en fil direct avec le ciel. Mais on a l'impression, en lisant René Grousset, que chaque fois qu'il respecte la loi de Dieu, ça marche. Chaque fois qu'il s'écarte, ça ne marche pas. À côté de ça, il y a une autre règle qui apparaît. C'est ce qu'on appelle la règle de prudence. Un petit-fils de Fouquet, qui était ministre de la guerre, écrivait à son fils, le duc de Gisors, il lui avait acheté un commandement, il lui dit... Apprenez l'histoire pour apprendre la guerre, la diplomatie et la politique. Eh bien, lire l'histoire des croisades par Grousset, ça vous fait apprendre la guerre, la diplomatie, la politique, en négatif et en positif. Alors, conclusion de cette... Alors après, bon, le royaume franc va durer 2 siècles ou 3, il va progressivement se faire pervertir par les mœurs arabes, qui sont décadentes. Et c'est ça qui va, à terme, causer sa perte. Mais, en 1095, quand le pape Urbain II lance la croisade, la chute de Constantinople est une question d'années. 1 an, 2 ans. 10 ans plus tard, Constantinople est dégagée. Les 3/4 de l'Anatolie sont reconquises par Byzance. La Syrie est devenue franque. Et il va falloir 3 siècles et demi pour revoir la reculade et la reprise de Constantinople. Donc le pape, par son action, a retardé de 3 siècles et demi une décision qui paraissait sur le terrain inévitable. J'aimerais que beaucoup de nos hommes politiques prennent des décisions aussi bonnes dans le temps. Alors encore une fois, la croisade va marcher chaque fois qu'elle respecte la loi de Dieu et s'échoue chaque fois qu'elle échoue et ne voudra pas respecter la loi de Dieu. Je crois que c'est une leçon pour aujourd'hui, même pour nos hommes politiques.